Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel audio consacré à notre premier thème sur le travail de la mère de vérité du mois de mars. Alors ce thème, je vous le dévoile maintenant, c'est la roue de médecine. En effet, la roue de médecine a déjà été introduite en février, mais il y avait tellement de choses, c'était tellement dense que du coup j'ai laissé ça de côté. Et ici en mars, on en reparle, donc c'est le moment ou jamais de faire un petit point clair là-dessus parce que c'est sûr que ça va revenir, etc. La roue de médecine, ça reste quand même un des emblèmes de la culture amérindienne. Alors autant qu'on s'y attaque tout de suite, sachant que c'est un sujet dont je suis vraiment très très heureuse de parler, vous allez vous en rendre compte, je pense. Et puis, parce que du coup, ça fait 6 ans maintenant que je travaille personnellement avec ce symbole. Et il m'a apporté énormément de choses. Donc je suis vraiment, vraiment très contente de pouvoir partager sur ce thème avec vous. Alors, la roue de médecine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous pouvez déjà un petit peu voir dans le livre de Jamie Sams un paragraphe à la fin du livre consacré à la signification de la roue de médecine. Paragraphe que j'ai lu après avoir rédigé un petit peu l'architecture de cet audio, et j'ai été très contente de voir que certains mots revenaient et que du coup on avait un petit peu la même idée de ce qu'était la roue de médecine. Et en tout cas voilà, vous pouvez retrouver ce petit paragraphe à la fin du livre et puis voir ensuite de façon très résumée par rapport à cet audio, si vous en avez besoin pour essayer de remettre des idées en place. Alors, qu'est-ce que c'est que cette roue de médecine? Eh bien, c'est un symbole. Et un symbole, je vais vous le dire, très intéressant, de la culture amérindienne, mais que l'on retrouve aussi chez nous, sous une autre forme qui s'appelle alchimie. J'y reviendrai plus tard. Simplement, que la roue de médecine n'est pas à écarter de notre intérêt parce qu'elle provient d'un autre continent, d'une autre culture, puisque du coup on va retrouver certains de ces éléments dans notre culture à nous. Et puis c'est d'autant plus intéressant quand on sait qu'un symbole possède un sens spirituel fort, efficace, ou en tout cas qui rentre en résonance avec énormément de personnes comme ça, qui ont vraiment un sens du sacré fort, eh bien on va le retrouver partout dans le monde, comme c'est le cas par exemple des pyramides. Ainsi, eh bien oui, la roue de médecine peut nous servir comme outil de découverte de soi, à nous, Européens, Français, Canadiens ou Japonais, même si elle a été inventée à des kilomètres, à des centaines, à des milliers de kilomètres de chez nous. La roue médecine, en tout cas, est représentative du temps. C'est le temps qui passe, le temps cyclique, qui nous fait repasser par les mêmes phases, comme si nous traversions des saisons. Nous en avons parlé lors de notre travail sur la mer de janvier, la mer de la vérité de janvier, concernant donc le temps qui peut être soit linéaire ou alors qui peut être vu comme une spirale avec des cycles sur lesquels on repasse, mais toujours avec une certaine croissance. Dans notre vie en général, on va également passer par certaines phases, certaines saisons. En tout cas, on passe par l'enfance, l'adolescence, la maturité, la vieillesse et l'au-delà. Mais il y a bien d'autres phases à l'intérieur de toutes ces phases-là. On pourrait l'imaginer comme une sorte de poupée russe, comme ça, emboîtées les unes dans les autres. Et bon, prenons un exemple concret, comme les relations amoureuses qui peuvent naître dans notre adolescence ou dans notre période d'adulte. Alors, bien entendu, ces deux types de relations ne vont pas vraiment se ressembler hein, en termes de durée, d'intensité ou de profondeur, mais on remarque qu'elles suivent aussi comme un même plan, un même schéma. La relation, dans tous les cas, va naître, grandir, fleurir, mûrir et puis dépérir. À l'intérieur même de ces phases qui durent ben, des années ou au moins quelques semaines, espérons-le, eh bien nous les femmes, on va vivre nos phases lunaires, qui vont se diviser aussi en 4 semaines environ, et qui vont nous permettre de vivre des jours eh bien, plus de repli sur soi, d'intériorisation, ou alors d'épanouissement, d'expression, etc. Et en même temps, dans encore chacune de ces phases-là, nous allons vivre les différentes phases eh bien, d'un projet ou d'une création, etc. Et une journée même, à l'intérieur encore de cette phase de création, va se découper en plusieurs phases. Donc la naissance du jour, le matin, l'après-midi, la soirée, la nuit. Chaque chose que l'on fait peut se découper ainsi, en début, progression, conclusion, arrêt. Et chaque heure peut subir une même découpe de ce genre. Voilà, donc toutes ces espèces de phases poupées russes, comme ça, incluses les unes dans les autres, sont elles-mêmes des roues de médecine. La fin d'un projet va embrayer sur le début d'un autre. Un jour va succéder à un autre. Notre ovulation va succéder à une autre phase préovulatoire, tout comme notre vieillesse va succéder eh bien, à notre belle période de maturité d'adulte. Et on peut se rendre compte, du coup, que dès qu'une roue se termine, eh bien, elle ne va pas vraiment finir, elle va continuer. Et cela, c'est tout à fait significatif du symbole du cercle ou de la spirale. Un cercle, une roue, donc finalement, elle n'a pas vraiment de début, pas vraiment de fin. Et puis, eh ben, du coup, nous nous retrouvons tout à fait ce symbolisme en Europe, sous la forme de l'ouroboros. C'est un serpent qui se mord ou qui se mange comme la queue. Je précise que cet ouroboros est un des symboles majeurs de l'alchimie arabe et européenne médiévale. Donc le cercle, la roue ou l'ouroboros nous indique de façon très simple et très efficace le sens de ce qu'est la vie dans le temps. Pas de début, pas de fin non plus, mais une succession de cycles de plus ou moins longue durée qui a une trame toujours un petit peu identique avec un début, une maturation-expansion, une conclusion et un arrêt ou une absence. C'est un rythme en quatre temps qui se dégage, tout comme une partition musicale hein, de quatre temps. Et en tant que femme, nous vivons pleinement ces rythmes dans le corps, donc de façon vraiment très intégrée, très concrète, vraiment corporellement. Donc le rythme est une notion que je trouve profondément féminine, tout comme finalement le cercle, tout comme la pleine lune. Et ce qui est incroyablement intéressant, c'est que le cercle incorpore des valeurs fortes de l'égalité. En effet, chaque point inscrit sur le cercle est à égale distance du centre. C'est pourquoi d'ailleurs les planètes et les étoiles sont rondes, puisque le pouvoir d'attraction du centre, du noyau donc, touche tout le monde de la même façon. Je trouve que ces valeurs égalitaires sont profondément féminines, à l'inverse d'un système plus compétitif qui veut qu'un point soit meilleur ou plus grand ou plus éloigné que les autres. Avec le cercle, finalement, tout le monde est logé à la même enseigne et il n'y a pas de carré VIP, de carré VIP. D'ailleurs, je trouve ça marrant qu'on appelle ça un carré VIP parce que finalement, pour faire ressortir quelques personnages du lot, eh bien, c'est vrai qu'on ne pouvait pas passer par l'image du cercle. C'est impossible puisque le cercle, finalement, a quand même cette idée de quelque chose de lisse et d'égal. Bref, parenthèse un petit peu rigolote et cynique à part. La roue de médecine, je la vois comme un cercle rythmique qui reflète les cycles et la vie en général. Et ce qu'elle a de particulier sur eh bien, l'ensemble des autres cercles, c'est que cette roue est divisée en quatre. Nous l'avons vu que chaque cycle se découpe en quatre grandes périodes. Donc cela renforce bien cette idée de métaphore de la vie. Et l'ingéniosité de la roue de médecine ne s'arrête pas simplement là, car à ces quatre phases sont associées les quatre directions, c'est-à-dire les quatre points cardinaux. Maintenant, ça va être vraiment essentiel de se mettre dans la peau d'un humain primitif. Alors, j'emploie le mot primitif sans connotation négative, hein. C'est primitif pour primal, pour vraiment dans le sens premier, donc les premiers humains. Et ces premiers humains vivaient vraiment au cœur de la nature, nuit et jour, dans le concret, dans leur sens, et les concepts d'espace et de temps ont été très certainement les toutes premières inventions de l'esprit non palpable. Et comme tout ce qui touche ben, au phénomène de concept, ils étaient forcément sacrés. À l'époque, pour se repérer, l'humain comptait sur ces notions. Le repérage dans l'espace, selon les directions à prendre, était synonyme de leur survie, de leur univers. Les quatre directions étaient comme le tout. Et les cycles s'inscrivaient sur ces directions. Par exemple, le froid venu du nord annonçait très clairement à ces personnes-là l'arrivée de l'hiver. Le temps s'écoulant selon le mouvement du soleil dans le ciel et permettait donc aux humains primitifs de se repérer dans le temps. Je ne pense vraiment pas que l'on puisse s'imaginer l'importance que devaient avoir les points cardinaux dans la vie de nos ancêtres éloignés, hein, surtout avec notre vie d'aujourd'hui, et cette connaissance qui est très peu transmise dans le système éducatif et dont on n'a pas eu connaissance peut-être suffisamment dans notre cas. Un peu plus hein, si on a été chez les scouts, etc. Mais en tout cas, on peut s'imaginer à l'époque que ces quatre points étaient vraiment sacrés, respectés, et que même une relation intime entre eux et l'humain s'établissait. La sensation d'une direction était comme connue à l'intérieur de soi. Alors bien entendu, ce n'est pas quelque chose que je peux vous dire qui est su par l'histoire ou par l'archéologie. Ici, c'est vraiment un phénomène également de concept, d'imagination et quelque chose de l'ordre de la transmission. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Je pense que les humains qui étaient en connexion primale avec leur environnement ressentaient le nord, ressentaient l'est, ressentaient le sud, ressentaient l'ouest, au point d'en percevoir à l'intérieur d'eux-mêmes un caractère pour chacun d'entre eux. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a quelques anciens qui donnent des attributs, des espèces de personnalités aux différents vents selon leur direction. Et puis, il y en a même qui ont leur propre nom, hein, comme le zéphyr, par exemple. En tout cas, la roue de médecine amérindienne, elle, a réussi à intégrer la personnalité des quatre directions à l'intérieur de son cercle égalitaire, à l'intérieur de son cercle de temps, et les a reliées donc avec le caractère des quatre phases d'un cycle, en remarquant du coup les concordances qu'elles avaient entre elles. Et en plus, elle a réussi à faire de même en intégrant les quatre éléments air, feu, eau et terre. Cela veut dire que la roue de médecine intègre les concepts de temps de cycle, mais aussi d'espace, comme des physiciens modernes, hein, pour qui finalement l'espace-temps n'est plus divisible. D'ailleurs, les deux mots hein, créent le mot composé espace-temps qui est relié avec un tiret. Mais encore en plus de cela, depuis l'ingéniosité d'Einstein, en fait, on a pu comprendre que le temps lui-même était relié à la matière, relié au concret, tout comme notre roue a réussi à être reliée aux éléments concrets. Et on pourrait dire comme ça que la roue de médecine finalement transcende les genres et qu'elle est comme une métaphore d'un monde qui est plus lié qu'on ne le pense. Bon, maintenant, continuons notre cheminement encore plus concrètement. Alors, l'Est est relié à la phase des débuts, hein, puisque, après tout, c'est bien à l'Est que le soleil se lève. Donc, l'Est des débuts est connecté à l'élément air dans la culture amérindienne. Dans la culture européenne également, notamment en Irlande, où l'on retrouve des festivals qui sont dédiés à la fois à l'Est et à l'air. Par contre, les sorcières modernes de l'ordre type Wicca, etc., vont associer plutôt l'Est à l'eau. Bref, pour se faire sa propre idée, rien ne vaut. L'expérimentation et la méditation, on l'a vu le mois dernier, chacun son point de vue, chacun sa vérité. On le respecte tout à fait. Après, c'est un point de vue personnel, et personnellement, moi, je travaille avec l'association Est-Air. Le sud, lui, alors là, pour tout le monde, c'est bon, c'est pareil, il est relié au feu créateur, c'est le paroxysme, c'est le feu de la passion, c'est la chaleur du midi qui est particulièrement ardente, que l'on ressent sur la peau. L'ouest, lui, est connecté plutôt à la vieillesse ou à la maturité tardive, en tout cas, plus exactement, vraiment pour se donner une idée, c'est plus juste de dire que c'est lié à la sagesse qui est apportée par l'âge et par l'expérience. En fait, on peut regarder en arrière, surtout le vécu, et on en tire certaines conclusions. C'est aussi le moment où on va commencer à guérir. Et cette direction est liée à l'esprit de l'eau. Finalement, le nord, lui, est plutôt relié à l'absence, à l'arrêt, à ce moment d'entre-deux, hein, qu'on peut aussi appeler la mort. C'est le moment de célébrer ce qui a été fait, ce qui a été terminé. Et du coup, c'est une direction qui est reliée à la Terre. Et puis hop, c'est reparti, on retourne de nouveau à l'est avec un nouveau cycle qui recommence, etc., etc., etc. Dans le conte de février, la mère de la sagesse entrait successivement dans 7 grottes, dont 4 étaient dédiées à chaque direction. À l'est se trouvait le symbole de sa part masculine, donc de notre part masculine aussi à nous, hein, du chercheur, de l'aventurier, qui va à la rencontre de la lumière, de l'éclaircie. Et cette lumière est la reconnaissance du sacré en soi et chez chacun, c'est-à-dire chez moi, chez toi, chez l'autre, et aussi, alors, sur tous les êtres vivants. Au sud, il s'agissait du concept de confiance. À l'ouest, du concept du corps et notamment de la féminité, et au nord, les leçons de l'expérience, ce que j'avais, vous vous rappelez, plutôt attribué à l'ouest. Ainsi, à chaque direction est associé un enseignement, que ce soit sur la vie en général ou sur un projet plus particulier. Dans le conte de Mars, le projet particulier, eh bien, c'est une décision de justice, ce qui implique d'énormes conséquences, et un choix qui doit être le plus juste possible. La mère qui pèse la vérité, c'est son nom, va prendre 4 jours pour comprendre la situation, c'est-à-dire un jour pour chaque direction et pour la sagesse apportée. C'est ce qui va lui permettre en fait de comprendre que globalement la situation et chacun de ses aspects. Alors du coup, à l'est, elle va apprendre à comprendre en fait qu'elle ne peut voir de façon claire les choses, donc de mettre la lumière sur la situation, que si elle-même baigne dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'elle est en dehors de tout préjugé concernant la situation et tous les personnages en jeu impliqués, et que du coup, finalement, elle doit aimer de la même façon chacune des parties. Nous avons, je vous le rappelle, appris en février que chacun a effectivement son propre point de vue, chacun a sa vérité et chacun agit à partir de là. Et nous le verrons surtout que dans le cas de crime, en tout cas vraiment avec des guillemets, dans le conte de Mars, chacun va agir selon ses propres blessures. Au sud, elle demande en quoi elle peut avoir confiance. À l'ouest, elle demande la compréhension du passé, donc des blessures du passé de chacun, comme on l'a pu voir en février, et de l'impact futur de son choix. Au nord, elle va commencer par éprouver de la gratitude pour ce qui a déjà été fait, ce qui a été déjà donné comme information, comme sagesse. Et elle va notamment demander la guérison. Donc, c'est peut-être véritablement ce qui va faire que la mère qui pèse la vérité va agir selon les lois divines. Mais pour cela, nous allons travailler sur ce thème une prochaine fois. Ainsi alors, comme pour février, nous retrouvons les mêmes données, c'est-à-dire que Est est lié à la clarté, au sud, la confiance, à l'ouest, le futur, le concret, le physique, et au nord, la leçon ou la guérison. En février, les 3 autres grottes concernaient le plan vertical cette fois-ci, donc il y avait la grotte du bas, du haut et du centre, et elles n'entrent pas véritablement dans la roue de médecine, qui s'étale, elle, plutôt dans l'horizontalité de l'environnement. On pourrait donc dire que la roue de médecine est plus dans le collectif, dans le tous ensemble, et que les 3 niveaux verticaux sont plus dans le personnel, dans l'individuel. Au croisement de ce cercle horizontal, la roue de médecine donc, et de l'être humain individuel vertical avec ses 3 niveaux, on va retrouver quoi? On va retrouver le moi, c'est-à-dire la conscience. C'est ce qui explique finalement que la connaissance de la roue de médecine permet un agrandissement de notre conscience. Et oui, rien de moins. Donc, c'est bien beau, on est d'accord, mais concrètement. Eh bien, concrètement, pour travailler avec elle, je vais vous proposer quelques exercices dans la suite de cette page. Et notamment, le fait que nous pouvons tenter de voir actuellement, là, dans quelle phase nous sommes. Je vais me prendre en exemple. Alors, on va commencer par le global au plus petit. Là, je suis dans ma phase adulte. Donc, je dirais que je suis dans ma phase sud de ma vie. Je suis également dans la phase sud de cette classe, puisque j'ai déjà vu clairement son découpage et que là, je suis dans sa réalisation concrète, dans l'enregistrement, dans le feu créateur, dans le flux, dans la confiance en ce flux. Maintenant, par rapport à la phase mensuelle, on est en pleine lune. Donc là encore, je suis vraiment dans mon sud. Et puis, il est 4 heures de l'après-midi, donc on est encore dans le sud. Tout doucement vers l'ouest, mais on est quand même dans le sud. Et voilà. Du coup, c'est vraiment la conjonction de tous ces suds ensemble qui me permettent d'être efficace et créative. Bon, maintenant, on peut aussi tout à fait créer en pleine nuit. Chacun a son sud, chacun a sa propre vérité, rappelons-le. Mais je sais qu'il est plus difficile pour moi, par exemple, d'exprimer et de transmettre dans les audios en phase nord, en phase de saignement, par exemple. Et finalement, je ne suis pas du tout étonnée de retrouver du sud partout dans cet exercice. Voilà, la connaissance finalement de la roue de médecine peut donc expliquer nos actions, nos motivations. Elle peut nous permettre de savoir finalement comment nous fonctionnons. Et ça fait d'elle un outil absolument formidable pour notre évolution. Et comme je vous le disais, du coup, je suis vraiment très 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 heureuse de vous en parler. Vous vous rendre compte que je pourrais continuer encore longtemps comme ça, mais j'aimerais encore simplement évoquer que les roues de médecine se construisent dans les jardins, autant qu'à la maison, on va le voir plus tard, et que pour cela on utilise des pierres. Trois pierres pour chaque phase, plus une au centre, ce qui nous donne 13. 13 pierres, comme les 13 lunes, comme les 13 mers. Impossible pour moi de ne pas le souligner, impossible pour moi de ne pas rattacher cette roue au féminin sacré, et je pense que vous serez certainement tous d'accord avec moi. En tout cas, voilà, je pourrais vraiment continuer comme ça longtemps, mais rien ne vaut la pratique personnelle, votre pratique à vous, et je vous encourage forcément à suivre les exercices suivants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur notre groupe Facebook, il est fait. Pour cela, et il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cet audio jusqu'à sa fin. Et puis on se retrouve très très rapidement pour la suite. À très vite!